Le Grand Dialogue.
Sigikafoba.
Odewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Gmoundi.
Chenni Beri. Sigikafoba. Le Grand Dialogue.
Quel est l'impact des médias sur les droits et l'autonomisation des femmes? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir et nos invités, ils sont quatre. Bandjougou Danté, président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Madame Sidibé Fatimata Guindo de Mali Justice Project. Fatoumata Chaban de l'Institut malien Recherche Action pour la Paix et Sacha Meuter de la Fondation Hirondelle. Je suis Mouhamadou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani. Bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Médias et femmes, c'est de ça qu'on va parler ce soir. Bandjougou Danté, aujourd'hui au Mali, est-ce que l'impact des médias sur le droit et l'autonomisation des femmes est visible?
Je vous remercie beaucoup. Je crois que les droits des femmes, l'autonomisation, c'est des thématiques qui sont surtout relayées par des médias. Parce que c'est vrai que nous assistons à l'émergence d'organisations de la société civile et même de pouvoirs publics qui prônent effectivement la promotion de la femme, l'émergence de la femme, les droits de la femme, l'autonomisation de la femme. Ces différentes politiques trouvent un écho favorable auprès des populations parce que les médias sont en train de faire un travail remarquable dans ce domaine, notamment les médias radio. C'est à travers les médias que l'on a parfois l'impression que ce phénomène dont on parle est une nouveauté. Et je crois que les médias jouent un rôle important dans l'autonomisation de la femme parce que le phénomène est aujourd'hui un phénomène véritablement médiatique.
Madame Sidibé Fatimata Guindo, les médias jouent un rôle remarquable, c'est ce que dit Bandjougou Danté. Est-ce que ce rôle remarquable est réellement visible sur le droit et l'autonomisation des femmes?
Merci beaucoup. Et effectivement, les médias ils jouent un très grand rôle. D'abord, l'information. C'est à travers les médias que les femmes reçoivent l'information sur leur environnement, sur ce qui se passe. Et les droits de la femme, comme vous le savez, ça s'acquiert. Et cela s'acquiert d'abord à partir de l'information qu'elles reçoivent et aussi à partir des expériences des différentes zones, des différents pays. Donc les médias, comme on le dit, rapprochent les peuples. Donc c'est vraiment un grand moyen d'information, de sensibilisation pour que les femmes vraiment s'assument pour cette autonomisation. Je confirme.
D'accord. Alors, Fatmata Chaban, expliquer le rôle des médias, c'est vrai, mais aujourd'hui, quand on va sur le terrain, est-ce qu'on a l'impression que les femmes sont conscientes, connaissent leurs droits et qu'elles sont autonomes?
Merci pour l'invitation. D'abord, moi, j'aimerais qu'on ne déduise pas l'autonomisation des droits des femmes, parce que c'est une thématique des droits des femmes. Donc, déjà, si on parle de la promotion des droits des femmes, l'autonomisation fait partie. Maintenant, le rôle des médias, ça se sent sur le terrain, parce que la radio, par exemple, la radio, c'est le média, le type de média la plus écoutée. Et ça, que l'on soit en zone rurale ou en zone urbaine, je vais donner un exemple. Nous sommes dans la recherche. Nous partons dans des localités qui ne sont pas en contact avec les organisations de la société civile, mais qui ont quand même certaines informations grâce à la radio. Parce que dans ces localités-là, chaque famille a au moins une radio. Chaque famille écoute. Dans chacune de ces familles-là, il y a au moins une personne qui écoute la radio par jour. Et ça, c'est très important. Et maintenant, c'est aux médias d'utiliser ces moyens qu'ils ont pour donner de l'information, mais la bonne information, et surtout faire comprendre à ces femmes-là ces droits, au lieu de les demander, de les réclamer, leur faire comprendre d'abord c'est quoi leurs droits et quelles sont les thématiques qui sont dans ces droits-là.
Sacha Meuter, aujourd'hui, sur quels critères peut-on se baser pour dire que l'impact des médias sur l'autonomisation, l'accès aux droits des femmes est positif ou négatif?
Au niveau de la recherche, proprement dit, c'est vrai que c'est un défi. Ça reste un défi de démontrer effectivement le lien entre un certain média et la promotion de certains droits. La façon dont on essaie de le faire, c'est d'aller à la rencontre des auditeurs et d'essayer d'évaluer leur niveau de connaissance par rapport à certaines problématiques et de voir si ce niveau de connaissance évolue en fonction des informations qui sont données à travers les médias. Et c'est en faisant cela que l'on voit qu'un média qui amène des informations pertinentes sur des problématiques proches des gens, dans les langues qu'ils comprennent, ça a un rôle très très important pour éveiller les consciences sur des problématiques, sur des droits et sur ce qu'on peut faire pratiquement pour améliorer sa situation.
Aujourd'hui, vous avez mené une étude de ce type au Niger. Quelles ont été les réactions des populations par rapport à ce sujet ?
Tout à fait. On a mené une étude qu'on appelle une étude d'impact, donc une étude qui a pour but de mieux comprendre quel est notre effet, quel est l'effet de notre média au Niger. Pour ce faire, on a eu beaucoup de rencontres avec des auditeurs, des auditrices dans différentes parties du pays. Et on a essayé d'évaluer leur niveau de connaissance sur des problématiques. Et la première action qu'on a, que ce soit auprès de femmes rurales, de femmes urbaines, de groupes d'hommes, etc., c'était un besoin d'information, une demande pour plus d'informations et de meilleures informations. Quand on leur fournit ça, quand un média leur fournit ce type d'information, on voit que cela stimule l'envie de participer, d'agir, d'être une partie prenante. Cela renforce la capacité à faire valoir ses droits et à les mettre en œuvre. Donc, globalement, je dirais que les audiences nous disent on veut des médias professionnels, équilibrés, qui parlent des réalités que nous vivons et de ce qu'on peut faire pour améliorer notre situation. Donc globalement, la réaction par rapport à ce type de médias est très positive. Il y a aussi des inquiétudes. Il y a des inquiétudes notamment liées à l'utilisation croissante des réseaux sociaux, des médias sociaux, qui posent des problèmes, qui posent des défis. On avait des femmes qui nous disaient « Ah, nos filles vont à l'école, elles cachent les écouteurs sous leur voile et elles n'écoutent plus les cours ». Donc voilà, ça pose des défis aussi, hein, ces nouvelles technologies et ces médias. Ce que je dirais, c'est que le plus important, ce n'est pas tellement de savoir si on s'informe sur les médias sociaux ou à travers la radio. Ce qui est important, c'est le type de contenu médiatique que l'on va consommer, et que cela soit sur la radio ou sur les médias sociaux. Et là, il y a vraiment un rôle très important à jouer pour des médias professionnels dans un monde où il y a de plus en plus d'informations qui est accessible, de s'assurer que dans tout ce bruit, il y a une information de qualité qui correspond aux attentes de la population dans une langue qu'ils peuvent comprendre.
D'accord. Pour que l'impact puisse être positif, il faut que les médias soient professionnels. C'est ce que Sacha Meter dit. Est-ce que Bandiougou Danté au Mali, les médias qui existent aujourd'hui sont professionnels?
Nous sommes dans un contexte de diversité médiatique. Hein, et dans cette diversité médiatique, je pense que les questions liées à l'autonomisation de la femme sont des questions qui apparaissent comme étant des notions nouvelles pour certains médias. Pour certains médias, parce que ceux qui s'intéressent à la question ne l'abordent pas parce qu'ils ont obtenu des formations, mais l'abordent parfois en fonction de leur vécu, ce qui est extrêmement important. Donc, de plus en plus, nous avons des ONG qui sont spécialistes de ces questions, comme la dame de ma gauche et celle de ma droite. Je pense que c'est des questions aujourd'hui qui ne sont pas des questions d'amateurs. Il y a des normes, il y a des principes qui aujourd'hui doivent être connus par un média se disant sérieux et qui doit diffuser des informations. Parce que pour parler d'un sujet, le plus important d'abord pour le journaliste, l'animateur, c'est de faire la connaissance du sujet. Il y a une recherche à faire, il y a une documentation à chercher sur le sujet. On ne vient pas parler parce qu'on sait parler ou parce qu'on peut parler, mais il faut parler sur ce qu'on connaît parce que vous êtes censé éclairer la population. Je pense que les ONG qui interviennent dans ce domaine-là ont une responsabilité sociale de formation et d'information des médias qui doivent informer.
Est-ce que cet aspect est pris en compte dans vos activités, Madame Sidibé?
Dans les activités de Mali Justice Project, bien sûr, parce que c'est un projet qui s'occupe de l'accès aux droits, notamment aux couches vulnérables, dont les femmes et les enfants. Donc, parlant de l'autonomisation, parlant de l'accès à la justice, par exemple, nous pensons que les médias jouent un rôle capital dans ce sens que, d'abord, il faut contextualiser les concepts et bien expliquer. Par exemple, quand tu dis autonomisation globalement, et comment le traduire dans une langue nationale telle qu'en Bambara ou en Peul ou en Dogon. Donc, il faut bien expliquer ce qu'on veut. Ne pas trouver des mots, traduire un mot par un mot, mais expliquer ce qu'on veut et faire comprendre un peu comment cette situation est vécue dans le milieu. Parce qu'il y a des manières d'aborder un sujet. Tu l'abordes de façon appropriée, tu es bien compris et les gens tirent tous les bénéfices qui sont liés. Et aussi parce que l'autonomisation, les médias jouent un facteur d'influence extérieure. Mais l'autonomisation en elle-même vient des femmes elles-mêmes. Ça vient de l'intérieur, tu vois. Mais les informations que les sujets reçoivent et sont capitales pour amener quelqu'un à prendre une décision. Donc, dans le cas du Mali Justice Project, par exemple, nous informons, par exemple, nous avons élaboré 100 fiches sur plusieurs thématiques, telles que l'héritage, telles que la vie courante même, quand tu as un problème avec ton locataire ou les cas de violence conjugale. Tout cela sont expliqués à travers les médias dans un langage très simple, compréhensible, lié aux réalités du milieu. Et là, je dis que vraiment, c'est un grand travail professionnel que les médias jouent dans ce cadre.
D'accord, oui. Tout cela est expliqué. Mais réellement, je reviens sur la question, Fatmata Chaban. Est-ce que les femmes maliennes connaissent déjà même leurs droits?
Alors, là, c'est la grande question. Je vais revenir un peu en arrière, parce que lorsqu'on parle des droits de la femme, les uns et les autres ne voient que le côté droit. Alors qu'il y a certaines thématiques et certaines problématiques, des problématiques qui sont liées au droit. Il y a un contenu. Par exemple, sur le projet promotion de la place de la femme que IMRAP exécute avec Studio Tamani, nous avons pris un certain nombre de thématiques. Et ces thématiques, nous les traitons dans différentes localités. À chaque fois que nous traitons une thématique, nous nous rendons compte que c'est une partie des droits des femmes, mais peut-être que pour ces femmes-là, ça ne fait pas partie de leurs droits, parce que ça passe de façon naturelle. Mais comprendre leurs droits, elles savent, il y a une grande partie des femmes qui savent qu'elles ont des droits, mais elles ne savent pas comment être dans leurs droits. Parce qu'on nous a toujours montré le côté réclamation de droits, mais pas être dans le droit, se battre pour quelque chose ou contre quelque chose. On a montré que les femmes sont en train de se battre contre les hommes pour leurs droits, mais qu'elles ne se battent pas pour leurs droits. Donc c'est là un peu la petite difficulté. Je voulais un peu compléter ce que Madame Fatmata vient de dire par rapport à la compréhension des thématiques, des différentes thématiques des droits des femmes. Il faut surtout il faut traduire dans nos langues, mais il faut surtout adapter chaque thématique à la localité dans laquelle nous sommes. L'autonomisation des femmes n'est pas perçue de la même façon à Mopti qu'à Ségou, forcément. On peut se rendre dans une localité de Ségou où les femmes sont autonomes. Mais pour elles, ce n'est pas un droit, c'est de façon naturelle et les hommes sont d'accord. Nous avons mené la recherche sur l'autonomisation, mais cette fois économique, dans la région de Ségou. Nous avons rencontré des femmes à Kalabougou et c'est ces femmes-là qui s'occupent des foyers à Kalabougou. Contrairement à ce que les gens pensent, les hommes travaillent selon ce qu'on nous a dit. Les hommes travaillent pendant une certaine période, 3 mois, et les autres mois de l'année, c'est la femme qui s'occupe du foyer. Donc ces femmes sont autonomes et dans leur localité, c'est les femmes qui ont plus de revenus qui sont les femmes les plus convoitées. À Alors, est-ce que, mais si on amène le concept d'autonomisation dans cette localité comme nouveau concept, ils ne vont pas le comprendre. Mais si on les fait comprendre avec les réalités de leur milieu, c'est plus facile pour eux de se dire, nous sommes déjà dans les droits de la femme, mais on ne se rend pas compte parce que pour nous, tout ce qui ne vient pas d'ailleurs n'est pas droit des femmes, alors qu'on respecte ces droits-là. Je voulais aussi revenir sur la collaboration entre les médias et les ONG.
Avant cela, juste une petite précision. Quand les femmes travaillent quand même, mais ce qu'elles gagnent ne leur appartient pas, en tout cas, elles n'ont pas la légitimité de gérer cet argent comme elles veulent, est-ce que c'est toujours de l'autonomisation?
D'abord, il faut faire un pas. Il faut que ces femmes-là arrivent à gagner quelque chose, qu'on les laisse gagner quelque chose, qu'on les laisse exercer, c'est aussi une autonomisation. Parce qu'il y a des localités dans lesquelles les femmes n'ont pas le droit d'exercer une activité génératrice de revenus. Donc c'est déjà un pas pour que ces femmes-là, maintenant que ces revenus que ces femmes ont, arrivent à les permettre d'avoir plus d'autonomisation ou qu'elles soient plus libres. Là, ça se traite sous un autre angle, mais pas sous l'angle de forcément de l'autonomisation. Elles ont un revenu, mais comment elles utilisent, on peut traiter ça ailleurs. Mais c'est déjà un grand pas de les permettre quand même d'exercer une activité.
D'accord. La collaboration entre...
La collaboration, oui. Monsieur Dante disait tout de suite que les organisations de la société civile doivent travailler avec les médias. Les ONG sont proches des populations. Les radios, les médias sont proches, mais il n'y a pas ce contact physique-là entre les médias et les populations. Mais les ONG ont ce contact physique. Si on prend les cas des violences et les autres thématiques des femmes, les ONG partent vers ces populations, on discute, et même pour les violences, les femmes viennent vers les ONG pour se confier, alors que la radio, c'est l'information, mais il n'y a pas de contact physique. Maintenant, c'est aux ONG de prendre, là où il y a les difficultés de compréhension des concepts, de mettre les médias en contribution et que les médias également mettent les résultats des recherches des organisations de la société civile, qu'ils utilisent ces résultats-là, ça facilite de la bonne information et la façon aussi de diffuser l'information. On peut passer toute la journée à donner une information sur l'autonomisation, sur l'excision, mais si on ne prend pas les bons termes, on n'utilise pas les bons termes et les termes adaptés, le message ne va pas passer. Voilà, la collaboration permettra de relever ce défi-là.
D'accord. Sacha, de façon générale, est-ce qu'aujourd'hui, au niveau mondial, les femmes, il y a des localités, des pays où les femmes sont réellement autonomes, où le sujet ne fait plus débat, par exemple?
Je crois qu'au niveau mondial, il y a une évolution sur ce sujet. Vous avez peut-être entendu parler du phénomène MeToo, qui est parti des États-Unis et qui parlait de la situation des femmes qui étaient victimes d'abus sexuels. Et tout ce phénomène, qui a vraiment pris une ampleur mondiale, est parti d'un article d'un journaliste aux États-Unis qui a révélé les abus commis par des gens très puissants, des gens du milieu de Hollywood, des réalisateurs de films, et des gens qui étaient très craints, et donc personne n'osait parler des violences commises par ces personnes. Et le fait que ce journaliste libère la parole sur les violences commises par ces personnes, ça a libéré la parole de millions de femmes. Et donc ça a vraiment généré un mouvement mondial, planétaire, et changer beaucoup de choses. Donc ça montre que c'est possible, que c'est une... Et ce que je veux dire aussi, c'est que l'autonomie des femmes n'est acquise partout, nulle part, je crois, vraiment, totalement. Il y a des problèmes partout. Même moi, je viens de Suisse, il y a encore des gros problèmes d'inégalité salariale, par exemple, en Suisse. Donc c'est toujours un processus qu'il s'agit de mener, et une situation améliorée. Je voulais aussi peut-être juste dire un mot pour donner un exemple concret plus près des réalités maliennes. Là, donc, on vient de mener une étude au Niger pour évaluer l'impact d'un média sur la promotion des droits des femmes et notamment, par exemple, leur participation en politique. Et ce qu'on a constaté, c'est que les femmes étaient des femmes étaient conscientes de l'importance de leur participation politique, elles étaient intéressées par ça, elles se rendaient compte que la politique, c'était important pour améliorer leur situation, leurs droits, mais elles étaient conscientes qu'elles manquaient d'informations et elles ne savaient pas tellement comment participer ou par où commencer. On constatait aussi une certaine résignation. Ah, c'est loin de nous, on ne sait pas comment participer, donc voilà, on se résigne. Il y avait même un certain scepticisme ou une mauvaise perception de femmes qui s'engageaient en politique et qui étaient perçues comme étant instrumentalisées. Donc quelque chose d'assez figé, voire quelque chose d'assez négatif. Et on s'est rendu compte qu'à travers la diffusion de programmes sur la participation des femmes en politique, en amenant aussi des témoignages de femmes qui s'étaient engagées, on a vu que les perceptions des auditeurs avaient évolué. Ils comprenaient mieux comment participer, ils comprenaient mieux de quoi il s'agissait, et ils avaient des exemples de femmes qui s'étaient engagées, qui étaient des femmes vraiment respectables. Et ça, ça les amenait à vouloir s'engager elles-mêmes et une meilleure compréhension de comment le faire. On a toutefois constaté un problème au niveau de la jeunesse, avec une jeunesse qui se désintéresse de la chose politique, qui est peut-être plus préoccupée par le fait de générer des revenus pour aider la famille à mieux vivre. Donc là, on sent qu'il y a encore un gros travail à faire auprès des jeunes. Comment mieux parler aux jeunes et comment mieux impliquer les jeunes dans la politique. Et ça, je crois, c'est un problème aussi global. Mais pour terminer rapidement, un exemple qu'on voit aussi actuellement dans le monde occidental, c'est sur le changement climatique. Là, c'est les jeunes qui sont leaders. Et une jeune femme, une adolescente qui vient de Suède, qui a lancé un mouvement de grève pour le climat. Elle a dit, un vendredi par mois, je ne vais pas aller à l'école, et je vais faire la grève pour que les autorités se mobilisent sur le problème du changement climatique. Et elle a, son activité a généré à nouveau un mouvement mondial. Dans beaucoup de pays du monde, des jeunes, un vendredi par mois, sont dans la rue et disent aux autorités, nous ne voulons plus des paroles, nous voulons des actes. Faites quelque chose pour le climat, parce que c'est nous qui vivrons dans 50, 60, 60 ans. C'est nous qui aurons à subir les conséquences d'une planète qui est de plus en plus polluée, etc. Donc faites quelque chose maintenant, notre avenir est en jeu. Et ça, cette mobilisation, elle est partie de jeunes. Et cette mobilisation, elle était relayée par les médias, notamment par les médias sociaux. Donc on voit que c'est un instrument très puissant.
Madame Sidibé, est-ce qu'on voit également par rapport à l'accès des femmes à leurs droits au Mali, plus de paroles et moins d'actes?
Bien sûr, donc comme ça c'est un grand sujet bateau, donc plus de paroles, moins d'actes.
Est-ce qu'il y a plus de discours et moins d'actions?
Les actions arrivent, on commence. Parce que ça commence à émerger. Quand je vais toujours me référer au cas du projet Mali Justice, et nous sommes en train, à travers les parajuristes, d'expliquer aux gens certains problèmes qu'ils rencontrent, soit dans la famille, soit dans la société. Donc des problèmes vécus aussi bien par les hommes que les femmes, mais par les jeunes aussi. Donc dans un premier temps, le rôle des parajuristes, comme vous l'avez dit, à travers la société civile, c'est de les expliquer. Voilà, la justice, nous ne sommes pas des acteurs formels de la justice, mais nous pouvons vous donner quelques éléments, vous accompagner. Voilà quel est le problème, comment est-ce qu'il faut le gérer, où trouver les références et pourquoi ne pas avoir peur. Donc c'est à travers ces informations qui sont données soit au niveau des foires. Souvent, on profite même des marchés pour donner le maximum d'informations par rapport à un problème donné. Si je prends le cas des violences basées sur le genre, on profite dans le marché. Et là, tu t'adresses à tout le monde et tu ne t'adresses à personne. Les gens vont comprendre que ah, je pensais que cette chose qui me harcèle depuis tant d'années, c'est vrai, ça touche beaucoup de femmes. Donc, peut-être il y a des moyens d'aller aller porter plainte ou des moyens de voir comment, au moins, le traumatisme qui est là. Donc, ce rôle ça commence déjà avec cette société civile à travers le parajuridisme et ainsi de suite, les femmes commencent à prendre conscience et à souvent à aller déclarer, porter plainte même contre leur agresseur. Et souvent, c'est les jeunes, garçons et filles, qui ont reçu vraiment des qui ont été attaqués dans leur morale, qui commencent à libérer, la parole commence à se libérer. Ça, c'est vraiment le rôle des médias de proximité à travers les rôles que les parajuristes jouent en informant sur les droits fondamentaux des uns et des autres. Donc ça, c'est vraiment... Nous commençons maintenant à aller vers l'acte, vers les... Je prends Bamako. C'est seulement quand nous avons commencé à voir les cas de viol et collectif et filmé dans les vidéos. Moi, je pensais que ça n'arrivait qu'ailleurs. Sincèrement, malgré que je savais ce que c'était et tout, j'étais choquée dans un premier temps. Mais dès qu'il y a eu des marches, il y a eu des sensibilisations, informations, le projet de justice pour le Mali a formé les magistrats. Nous avons formé les organisations de les OPJ, les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire. Nous avons fait une formation au niveau des acteurs de prise en charge holistique des victimes de VBG. Par exemple, depuis l'école, qu'est-ce qui se passe? Donner l'information, que la communauté soit informée. C'est pourquoi nous disons, je dis que les médias jouent un rôle capital. Les vieux, en leur temps, il y a des choses qu'ils vivent maintenant qu'ils ne savaient pas. Donc, au niveau de l'école, l'information est donnée. Au niveau de la police, parce que généralement, en brousse, quand il y a un problème, on va à la police. Donc, les officiers de police judiciaire sont formés, qu'ils comprennent le phénomène. Parce que les violences, on a eu, il y en a plusieurs types de violences. Ça peut être physique, ça peut être matériel, ça peut être moral, les injures, tu vois, des coups de blessures. Donc, tous ces acteurs ont été formés pour que vraiment ils soient alertes. Et au cas où il y a un problème de viol ou de violence conjugale ou dans la société, les gens commencent à aller maintenant porter plainte ou commencent à aller se référer. Et la société civile, les leaders communautaires aussi étant informés, commencent à comprendre le problème et ne le dramatisent pas. Parce qu'auparavant, c'était mal vu qu'une femme aille se plaindre comme quoi son mari la battait. Souvent, il la bat avec ou la menace avec des couteaux. On en voit beaucoup et ça a toujours terminé par des meurtres. Donc, on commence vraiment, la parole commence à se libérer. Les gens commencent à comprendre le phénomène et les gens commencent à avoir le courage d'affronter en suivant les voies de justice. Mais on n'est pas toujours obligé d'aller vers la justice formelle, mais quand même déjà les départs sont là et souvent à travers des négociations, on arrive à surmonter des problèmes. Mais si c'est nécessaire, on va jusqu'au bout. Donc je dis que vraiment, il y a eu des changements.
D'accord.
Il y a eu des changements.
D'accord. Bandjougou Danté, on entend moins les femmes sur les radios, on entend plus d'hommes. Pourquoi cela?
Ça dépend des sujets parce que de plus en plus, on assiste quand même à la libération de la parole côté féminin. Elles s'expriment sur des questions, notamment en rapport avec leurs droits. Et je crois que je n'ai pas besoin de vous rappeler que nous sommes dans une société à culture essentiellement dominée par les hommes. Donc, cela donne à l'homme le pouvoir et le droit à la parole, que ce soit sur le champ politique, que ce soit sur le champ économique, et même que ce soit sur un champ social. Mais aujourd'hui, au niveau des mentalités, au niveau des médias, on constate une certaine évolution. Même sur nos plateaux, les gens s'efforcent toujours de faire en sorte que quand il y a des émissions, quand il y a des débats concernant n'importe quel thème, qu'il y ait à la fois, s'il n'y a pas la parité, qu'il y ait la présence féminine, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc je pense que les esprits commencent à se former, la tolérance aussi commence à être pratiquée. Donc, au niveau de certains...
Les médias rencontrent des difficultés dans ce domaine également, pour faire participer.
Les problèmes, ce n'est pas un problème de refus, c'est plutôt un problème de disponibilité de la ressource humaine de qualité. Parce que c'est vrai qu'il faut impliquer la gente féminine dans le processus d'évolution même de l'humanité, mais encore faudrait-il que les femmes acceptent d'être formées, que les femmes acceptent d'aller au charbon. Bon, s'il s'agit de...
Mais à qu'elles acceptent, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'elles soient autorisées, qu'elles bénéficient de la latitude de le faire aussi?
La question de l'autorisation est en train de devenir un mauvais souvenir dans les centres urbains. De plus en plus, nous savons dans les centres urbains des femmes épanouies qui sont même encouragées par les maris à être productives, économiquement parlant. Bon, maintenant, il y a des secteurs que les femmes ont mythifiés et mystifiés dans lesquels elles ne s'essayaient pas. Par exemple, on a considéré certains domaines comme étant des domaines réservés aux hommes, que ce soit des domaines scientifiques, que ce soit dans le domaine même de la médecine, les femmes ont choisi des spécialités qui sont devenues des spécialités féminines. Bon, du côté des médias, elles n'ont pendant longtemps pas été journalistes, mais elles ont pensé que la femme, c'est l'animation radiophonique musicale. Donc je crois que ce qui est très important, les mentalités changent, si le monde change, il faut que les femmes aussi acceptent changer, qu'elles acceptent se former. Et dans les années à venir, je crois que ce n'est plus le sexe qui va être un élément déterminant de la compétence, c'est plutôt la capacité intrinsèque de l'être humain en tant que tel à pouvoir s'affirmer sur un terrain et à pouvoir donner des résultats. Donc je pense que cela a déjà commencé. Sinon, les barrières qui étaient là hier, qui empêchaient la femme d'avoir accès à certaines fonctions, d'avoir accès à certains métiers, d'avoir accès à certaines compétences, cela n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est un problème de compétences et les femmes doivent accepter et se former si elles ont la possibilité.
Accepter au niveau urbain, mais au niveau rural, qu'est-ce qui doit être fait également pour que les filles aient la possibilité non seulement d'être scolarisées, mais également de poursuivre leurs études? Parce que la déscolarisation, le mariage précoce sont aussi des handicaps.
Il y a des choses à légiférer dans un monde du 21e siècle. Et à la veille des indépendances, même pendant la période coloniale, même avant, les gens considéraient... Il y a des gens qui payaient même à l'administrateur pour que leurs enfants n'aillent pas à l'école. On a vu ces cas et on nous a parlé de ces cas-là. Ensuite, pendant longtemps, on disait que la fille est destinée au foyer, donc elle ne doit pas aller à l'école. Donc je crois qu'avec toute cette sensibilisation qui a eu lieu, avec l'évolution de notre histoire récente, il faut désormais que les États africains assument le droit à chacun d'aller à l'école. Et ce droit à l'école aussi doit aller avec la réalisation d'infrastructures permettant d'accueillir les populations qui ont droit à la formation, qui ont droit à l'école. Donc je pense que si on arrive à avoir un pays organisé, un pays dans lequel l'accès à l'éducation est facile, un pays dans lequel l'accès à la formation et les conditions permettant d'être formé sont réunies partout où on se trouve, qu'il n'y ait pas deux pays dans un pays au 21e siècle et l'autre à la préhistoire. Je crois que si on donne des chances égales à l'ensemble des enfants d'un pays, en ce moment, l'État doit exiger de chaque citoyen le droit à l'école. Et le droit à l'école veut dire quoi? Celui qui refuse à ce que son enfant, quel que soit son sexe, n'aille pas à l'école, cela doit être sanctionné. Donc je crois que Aujourd'hui, disons-nous la vérité, les femmes ont aujourd'hui plus de possibilités qu'hier. Les mentalités commencent à changer et les radicalismes mentaux qui existaient auparavant cèdent de plus en plus la place à un monde vraiment ouvert. Je l'ai dit, nous sommes dans un monde pluriel, mais un monde ouvert où l'État, les collectivités, les acteurs de la société civile ont un rôle à jouer par rapport à l'égalité de tous les êtres humains, égalité, mais également en termes de droits aussi.
D'accord, égalité, Fatmata Chaban. Est-ce que les femmes riches ont plus accès à leurs droits que les femmes pauvres ou est-ce qu'il y a une égalité à ce niveau?
Alors, avant de répondre à cette question, je vais revenir un peu en arrière par rapport à quelque chose que Bandjougou vient de dire tout de suite. Il faut qu'on arrive à déconstruire cela, homme, femme, enfant, fille, garçon. Il faut qu'on sorte de ça. C'est vrai que je trouve que chaque fois qu'on parle des femmes, de compétences, on demande encore plus d'efforts aux femmes. C'est les femmes qui doivent faire plus de formation. C'est les femmes qu'on remarque plus. On ne pardonne pas. Lorsqu'une femme fait une petite erreur, oui, c'est parce que c'est une femme, alors que les hommes en font tous les jours. Mais là, ça passe inaperçu. Il faut qu'on attire l'attention aussi sur ça, qu'on leur donne la chance. Elles sont humaines, elles peuvent aussi commettre des erreurs. Aussi par rapport à l'accès à l'éducation, je pense que aujourd'hui, là où nous sommes, la difficulté est plutôt le maintien de ces enfants-là à l'école. L'État et les partenaires ont fait de leur mieux pour qu'il y ait suffisamment d'écoles dans presque toutes les localités du Mali. Mais maintenant, c'est aux parents de faire en sorte que leurs enfants continuent leurs études. Nous avons fait une étude récemment à Koumantou où, dans la plupart des cas, les enfants abandonnent à cause des difficultés familiales, oui, mariage forcé, grossesse forcée, la pauvreté des parents ou le refus carrément des parents de voir leurs filles continuer leurs études. Des enseignants dans certaines localités, pas tous les enseignants, mais il y a des enseignants quand même qui profitent des élèves, des filles. Et il y a même dans l'étude que nous avons menée des cas où des filles ont carrément abandonné l'école à cause du comportement de ces enseignants-là. Mais il y a aussi des filles qui harcèlent les enseignants. Il y a également ces cas aussi qui sont ressortis de l'étude à Koumantou. Donc, si on revient un peu à l'égalité de chance, oui, les femmes, je pense qu'en droit, il n'y a pas de riches ou de pauvres. On est tous égaux devant la loi. Qu'on soit une femme riche, qu'on soit une femme en zone rurale ou en zone urbaine, on a tous les mêmes droits. Maintenant, les chances, l'égalité de chance, là, c'est là qu'il y a toute la difficulté. Une femme qui est aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, une femme qui est dans une zone de conflit n'a pas, par exemple, les mêmes chances qu'une femme qui est dans une zone où c'est paisible. On ne peut pas dire que les filles qui sont dans la région de Mopti aujourd'hui, où les écoles sont fermées, ou dans la région de Kidal, elles sont toutes des Maliennes, elles ont les mêmes droits, mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, elles ont une égalité de chance parce que celles qui sont dans les zones de non-conflit partent à l'école alors que leurs camarades qui sont dans les zones de conflit n'ont pas accès à l'éducation aujourd'hui. Je vais revenir aussi par rapport au discours.
Juste toujours par rapport à l'égalité. Est-ce que les femmes pauvres également ne se concentrent pas généralement sur le quotidien, chercher à vivre, rester dans une famille paisible, alors que les femmes qui sont déjà riches, qui sont autonomes en quelque sorte, quand elles sont violentées ou quand elles sont victimes d'une injustice, se donnent quand même la peine d'aller vers la justice?
C'est pas ce que je pense parce que derrière les visages de ces femmes riches, comme tu le dis, de ces femmes qui semblent autonomes, il y a des femmes qui sont violentées dans leur foyer. Et c'est ces femmes riches, ces femmes autonomes qui sont celles qui sont plus silencieuses sur les violences que celles qui sont dans les zones rurales ou celles qui sont pauvres. Ce que ces femmes subissent dans leur foyer, la plupart, c'est mille fois pire que ce que les autres subissent, mais elles n'en parlent pas parce qu'on leur a donné un niveau, un standing où on s'est dit qu'un homme ne peut pas ne peut pas les violenter ou un homme ne peut pas avoir un pouvoir sur ces femmes-là. Alors que dans les violences, toutes les femmes qui sont au foyer, en tout cas une fois dans leur vie, subissent une sorte de violence, que ça vienne de l'époux, de sa famille ou même de la société carrément.
D'accord. Vous parlez du discours ?
Oui, tu parlais tout de suite du discours. Il y a trop de discours, mais on ne voit pas sur le terrain. Moi, je pense qu'il y a des efforts, et ces efforts sont à saluer. Les organisations de la société civile du Mali fournissent beaucoup d'efforts, mais il reste encore beaucoup d'efforts à fournir, parce qu'à certains endroits, il va falloir qu'on change d'approche. On mène une étude sur l'excision au Mali et on a les mêmes résultats de 2013 à aujourd'hui, de 1999 à aujourd'hui, les mêmes pourcentages. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'on a la bonne méthodologie? Est-ce qu'on sensibilise les bonnes personnes? Est-ce qu'on a cherché à savoir ces gens qui exercent qui pratiquent l'excision? Je prends un exemple sur l'excision. Ces gens qui pratiquent l'excision, pourquoi ces gens continuent de pratiquer l'excision malgré toutes nos sensibilisations? Les gens qui ne pratiquent pas, pourquoi ces gens ne pratiquent pas? Si on essaye de voir des deux côtés, je pense qu'on peut avoir des solutions et les pourcentages pourront s'améliorer. Sinon, on ne peut pas comprendre qu'après toutes ces années de combat et de lutte, qu'on reste encore avec les mêmes pourcentages. Et sur les autres formes de violence également, il y a toujours eu des violences, mais maintenant avec les réseaux sociaux, les gens en parlent plus et on est tous au courant. Dès qu'il y a une violence dans la famille à côté, au lieu que moi je parte intervenir, je prends d'abord mon téléphone, je filme pour que je puisse mettre sur les réseaux sociaux. Donc il y a aussi ce poids des réseaux sociaux. Et voilà, et le problème, c'est pas un problème de texte, mais de pratique. On a des textes, les textes internationaux sont là, mais il faut qu'on aille vers la pratique. Il D'accord. faut qu'on consulte ces populations-là pour savoir ces choses qu'elles ont, d'où est-ce que ces choses-là viennent et pourquoi, malgré tout, ces populations tiennent à ces pratiques-là.
D'accord. Sacha Moteur, la Fondation Hirondelle pense qu'il faut que les médias également s'interrogent sur l'impact de leur production aujourd'hui sur le terrain, n'est-ce pas?
Tout à fait, tout à fait. Il faut qu'on comprenne mieux quelles sont les attentes, les besoins de nos audiences, comment mieux y répondre, et qu'on sache aussi, en tant que journaliste et que professionnel des médias, se remettre en question. Ça, c'est très important. Et pour faire cela, on mène justement ce dont je vous parlais avant, des études d'impact, pour comprendre l'effet de nos programmes et comment on peut les améliorer. Tout à fait.
Et cette année, une étude doit être menée pour comprendre l'impact de Studio Tamani également sur la population.
C'est ça, tout à fait. On va mener une étude d'impact de Studio Tamani avec une chercheuse basée en Angleterre à l'université de Sheffield, Dr Emma Haywood, qui va mener des discussions avec des échantillons de population, des groupes de population dans différentes parties du pays, et analyser aussi les contenus qui seront diffusés par Studio Tamani pour voir si ces contenus mènent à une évolution des perceptions, des connaissances des auditeurs et auditrices au Mali.
D'accord. En 30 secondes, Madame Sidibé Fatimata Guindo, quelle est l'urgence aujourd'hui pour que les médias puissent avoir plus d'impact sur les femmes?
L'urgence? J'allais dire qu'il faut qu'il y ait des médias de proximité. Les médias de proximité sont bien sollicités et bien écoutés. Et comme je l'avais dit au départ, il faut bien maîtriser le sujet qu'on veut passer et s'assurer du contexte dans lequel le message sera véhiculé, bien cibler. Et les auditeurs qu'on veut vraiment capturer l'attention. Et maintenant, en ce moment, donner la bonne information de façon simple, compréhensible. Éviter les termes, les gros mots, souvent, c'est très difficile d'être compris.
D'accord, donc, une information de proximité, de qualité, professionnelle et équilibrée pour pouvoir avoir plus d'impact. Merci à nos invités, Bandjougou Danté, président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, Fatoumata Chaban de l'Institut malien Recherche Action pour la paix, Madame Sidibé Fatima Guindo de Mali Justice Project et Sacha Moteur de la Fondation Hirondelle à la régie audio. studio Salim Diouara, régie vidéo assurée par Petting Diara et Moumine Sidibé. Merci à toute l'équipe Mamoutou Konaté et Ben Bitibali. Je suis Mouhamadou Touré. Le Grand Dialogue était délocalisé au Grand Hôtel de Bamako pour parler de l'impact des médias sur le droit et l'autonomisation des femmes au Mali. Merci à tous.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Odewani Ouamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halou Gmoni.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.